Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien en cette journée ensoleillée ou non ensoleillée, je ne sais pas, ça dépendra quand sera diffusé cet épisode, s'il sera diffusé un jour, je ne sais pas. Vous écoutez, bien évidemment, vous avez compris à cette introduction foireuse, de tout et de rien, l'émission qui vous parle de tout et surtout de rien. Et Dieu sait qu'aujourd'hui on va vraiment parler de tout parce que j'ai trois personnes en ma compagnie, dont certaines que vous n'avez pas vues depuis très longtemps. Et je veux parler bien sûr de Sébastien qu'on n'a pas vu depuis 6 épisodes. Comment vas-tu Seb aujourd'hui ?
Eh bien le bonsoir. Et non, effectivement, ça fait très longtemps que j'étais pas venu parmi vous, donc très heureux d'être là ce soir.
Et oui, et en plus, cette fois-ci, tu as une petite chronique pour nous égayer notre journée. On en reviendra vers ça tout à l'heure. On a également un grand habitué de ce podcast qui est venu une dizaine de fois déjà. Je veux bien sûr parler de celui que vous connaissez très très bien, c'est Maxime. Ça fait depuis 5 épisodes que vous ne l'avez pas vu. Nous, ça fait plus longtemps parce que vous savez que les enregistrements sont décalés. Comment ça va Max en ce moment ?
Ah, il fait moche, j'ai froid, mais sinon ça va.
Alors, le mec il met l'ambiance directe. Hein.
Et bah écoute, au moins on sait qu'on enregistre ce podcast au moment où il commence à faire plus froid, donc ce qu'on appelle couramment l'automne, je crois. Et j'en profite du coup pour m'adresser à Jules qui est avec nous. Deux épisodes à la suite, Jules, c'est la première fois, donc cool,
c'est
merci à toi.
C'est vrai que c'est un record, je suis assez peu régulier, mais là.
C'est ça, mais là nos éditeurs vont avoir la joie de t'entendre deux fois de suite. et ça c'est plutôt chouette.
Les chanceux.
Et bah écoutez. Sans perdre plus de temps, je vous propose de laisser la parole au doyen de cette émission, à savoir Maxime, qui a, je crois, beaucoup de choses à nous dire, beaucoup de rancœur, je pense, peut-être même.
Non, pas spécialement non plus, hein, mais c'est juste que dans une de mes très fameuses insomnies qui me permet d'écrire des choses, hein, parce que bon, quand il est à peu près 6h du matin et que j'ai rien à foutre, je me dis, bah tiens, pourquoi j'écrirais pas une chronique à la con ? Et ça fait partie de ce genre de chronique. Alors bon, aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, hein, je vais vous parler d'un sujet un peu plus sérieux, parce que bon, c'est vrai, les Gundam, les Berserk, tout ça, c'est bien rigolo, mais bon, aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc politique, d'un truc inquiétant.
Ah.
Ça fait peur, hein.
Oh.
Ah là, on chie dessus,
là,
hein.
Là, ça fait peur, ouais.
On a les escalopes qui disent bravo, tout ça, tout ça. Donc, je vais vous parler de la place, du coup, sans cesse plus importante de la Chine dans les productions culturelles mondiales. J'entends par là des productions cinématographiques et vidéoludiques. Alors non, ce n'est pas une chronique du petit journal, hein. Non, on est bien sûr de tout et de rien, rassurez-vous. Donc oui, par exemple, la Chine, hein, en quelques chiffres, c'est quand même 1,5 milliard d'habitants, un PIB de 13 600 milliards de dollars et une croissance de plus de 6%, hein, de quoi mettre des dollars dans les yeux de tous les producteurs, donc. Hein. Donc parlons de jeux vidéo un petit peu déjà, hein, et d'un jeu vidéo dont vous avez sûrement entendu parler, un jeu vidéo Battle Royale avec un look un peu cartoon, non, quelqu'un ?
Fortnite.
Oui, Fortnite, évidemment, un des plus gros succès commerciaux de ces dernières années.
C'est chinois ça, Fortnite ?
Ouais, pas du tout.
T'attends que j'ouvre ma gueule ou pas ?
Ok. Excuse-moi, c'est le spectateur qui s'interrogeait.
Non, ce n'est pas une production chinoise, mais si t'avais attendu 2 minutes de plus, t'aurais su. Donc développé par Epic Games, hein, donc responsable de Unreal Tournament et Gears of War, donc deux jeux qui sont très bien, et également du Unreal Engine, donc un moteur de jeu vidéo relativement simple à utiliser, ce qui en fait un moteur très apprécié par grands et petits studios. Donc c'est quand même un truc qui vaut quand même un peu son pesant de cacahuètes. Donc le jeu Fortnite était à l'origine un espèce de tower defense en 3D où il fallait arrêter des vagues de monstres.
D'accord.
Suite au peu de succès du titre finalement, qui était payant à l'origine, un mode Battle Royale a été ajouté. Le jeu a ensuite été rendu gratuit, causant une explosion du nombre de joueurs achetant cosmétiques et autres danses, autres skins, autres tout ce que tu veux. Ah non mais John Wick, c'est le gars dans Fortnite, c'est ça ? Oui, c'est ce genre de choses.
Donc, non, mais ça fait, on ne va pas exploser. Évoquer le sujet Fortnite John Wick, s'il vous plaît, s'il vous plaît.
Non, s'il vous plaît, voilà. Donc, ça fait exploser les recettes. Donc ça, tout le monde le sait à peu près, hein, voilà. Mais ce qu'on sait moins, par contre, c'est que Epic Games est tenu à 40% par une compagnie chinoise, Tencent, un géant chinois de la téléphonie qui finance à coups de milliards la machine Epic Games, qui a désormais son propre Steam, offrant chaque semaine des jeux gratuits et obtenant l'exclusivité de grosses licences comme Borderlands ou Metro Exodus, afin d'attirer le chaland tout en espionnant allègrement votre cher ordinateur. Oui, je suis un petit peu biaisé. Donc en fait, le truc pour vous expliquer, c'est que Tencent, c'est une énorme compagnie du coup de téléphonie chinoise, qui du coup a des grosses parts dans Epic Games, du coup le gars qui développe du coup Fortnite. Ouais. Du coup, suite à du coup ça, et ils ont investi vraiment genre je crois 1,5 milliard de dollars dans la com et le reste, histoire que Epic Games se développe encore plus. C'est donc un acteur majeur, finalement, qui est tenu... Alors, ils disent, ouais, non, on n'est pas influencé par Tencent, mais quand t'as 40% de ta compagnie qui est tenue par une entreprise, t'as tendance à l'écouter, quand même.
Oui,
voilà. Globalement.
Voilà. Donc, sachant que Tencent a également racheté d'autres choses, par exemple des développeurs de jeux web très connus et autres, du coup, globalement, ils se lancent plus ou moins dans le marché du jeu vidéo, ce qui fait que ça a un gros impact, quoi.
Ouais.
Mais il faut savoir, du coup, sur le marché du jeu vidéo chinois, il est finalement surtout constitué de jeux mobiles. Hein, des gachas surtout. Donc des gachas, pour ceux qui connaissent pas, c'est des jeux dépendants de la chance pour débloquer des personnages et compétences, c'est-à-dire globalement c'est l'équivalent d'une machine à sous.
Oui, c'est les jeux comme Dokkan Battle et compagnie. Exactement. Où tu rerolles sans arrêt pour avoir le perso ultra pété.
C'est ça, sachant que du coup des fois tu as payé 99 balles ton truc en espérant avoir un perso et finalement bah tu l'as pas. Ça c'est le bonheur en tout cas. Donc, ce genre de choses qui encourage fortement son public à dépenser son argent dans des packs à prix prohibitifs afin de débloquer plus facilement des choses, ou même juste à jouer, hein, car certaines fonctions sont limitées en mode gratuit. Une vision donc ultra mercantile du jeu vidéo qui, pour moi, ne raconte rien et n'apporte rien, à part évidemment de la thune, mais ça c'est autre chose, comptant finalement plus sur la soif de pari des joueurs, et surtout des jeunes joueurs, afin de gagner un maximum d'argent, que sur un quelconque intérêt vidéoludique ou même ludique. Donc les productions de jeux vidéo chinois sont très rares et s'exportent peu, à part, comme je disais, la téléphonie. Et à l'inverse, beaucoup de jeux vidéo japonais ou américains se trouvent interdits en Chine à cause de leurs propos non appréciés par le régime.
Ouais.
Oui, je dis régime, hein, on en est à ce niveau-là. Mais je pense personnellement que même si la place Chine, et l'impact de la Chine dans le monde vidéoludique reste limité, d'ici les prochaines décennies, cela risque de changer, comme nous le montre un autre type de production, le cinéma, où l'impact chinois est plus ancien et donc beaucoup plus visible. Tu vois, ça, c'est la transition, prends-en de la graine.
Waouh. Est-ce que tu l'aurais pas écrit, ta chronique?
Oui, bah tu connais nos trucs à l'avance, tu pourrais écrire aussi tes transitions.
Presque. Disons que je les ai parfois 5 minutes à l'avance.
Effectivement.
Je ne dirai rien, je me cache.
Ah non, mais moi, je dis le vrai talent est dans l'improvisation, hein, les gars.
C'est ça.
Non, mais je taquine, hein, bien mais évidemment.
Ça fait partie du charme du truc.
Formidable, on l'adore, on l'apprécie. Hein.
Ah, il est trop gentil.
Non, n'est-ce pas?
Trop de love.
Donc, car oui, il est rare d'aller voir notre blockbuster de l'été avec Gerard Butler ou Dwayne The Rock Johnson sans un logo d'une quelconque boîte de production chinoise avant le film. Il est également de plus en plus courant de retrouver un ou plusieurs personnages chinois parlant chinois dans ce genre de production. Le dernier exemple qui me vient en tête est le film The Meg avec Jason Statham, où plusieurs scènes sont intégralement parlées en mandarin. Venant des Américains pour qui le monde entier parle américain, cela est assez révélateur de l'intention des studios de faire du pied à la Chine et à son milliard de spectateurs potentiels. Même des énormes studios comme Disney coupent des petits morceaux de films comme certains baisers lesbiens du dernier Star Wars afin de brosser le public chinois profondément homophobe dans le sens du poil. Petite anecdote d'ailleurs, l'affiche de Star Wars 7 s'est vue photoshopée diminuant la place que prend le personnage noir de Finn à 1/5 de sa place d'origine. Donc homophobe et raciste, nice, yes. Doublé, gagnant. Donc, la Chine étant un marché énorme, il est compréhensible que, un producteur chinois mettant son grain de sel ou non, une certaine censure ou modification se fasse afin de mieux coller au public cible. Cela n'en reste pas moins inquiétant sur l'avenir du cinéma. Un exemple récent, Mulan, film profondément créé pour le marché chinois avec des acteurs chinois dont l'actrice principale a d'ailleurs vivement critiqué les manifestations à Hong Kong. Merci pour l'info Alexandra, si tu nous écoutes. Voilà, hein, coucou, je fais un coucou, je fais des
coucous pendant ta chronique, des dédicaces.
N'est-ce pas?
En plus, elle nous écoute, Alex. Merci Alex, hein, pour ton écoute au quotidien.
Oui, merci pour ton écoute.
Ton soutien. Et
merci qui que tu sois.
Mais, malgré tout ça, le film est une production 100% américaine Disney. Il ne parle qu'en anglais et apparemment ne respecte absolument pas la culture chinoise, tout en déféquant allègrement sur le dessin animé d'origine, bien entendu. On voit là le souci de vouloir plaire à tout le monde tout en mettant un sous-texte profondément malaisant, comme par exemple une scène où l'empereur de Chine dit « Fais-le pour la Chine et le peuple » en parlant de sauver sa petite personne. Je ne sais pas si ça résonne avec un certain homme politique chinois ressemblant étrangement à Winnie l'ourson. Non, peut-être qu'il y a que moi, je sais pas, mais en tout cas, moi ça me choque. Non mais je sais pas, j'attendais une réaction peut-être.
Je sais pas, j'ai pas
cherché. Je sais pas de qui il parle.
Ouais, mais j'ai pas compris.
Non, moi non plus.
Mais vous suivez pas Internet du coup?
Si, mais Winnie l'ourson et la Chine, non là ça me parle pas là.
Winnie l'ourson, attends, Winnie l'ourson ressemble à un homme politique chinois?
Bah en fait non, mais en fait le premier ministre chinois est très souvent caricaturé sous les traits de Winnie l'ourson.
Ah.
Ça a d'ailleurs fait beaucoup de.
Ça fait une polémique.
Ça fait beaucoup parler de lui parce qu'il y a des gens qui sont enfermés à cause de ça.
Ah d'accord, yes.
Ah,
d'accord, ah oui.
Ça veut dire que c'est carrément Winnie l'ourson, c'est interdit en Chine maintenant, du coup.
Bah oui, puisque ça ressemble à... Si Winnie l'ourson ressemble...
En fait, il ressemble même pas, mais du coup, depuis qu'il y a des gens qui ont fait l'amalgame, voilà, c'est pour ça que j'en parlais. Je pensais que vous auriez compris le truc.
Ceci dit, c'est la peste capitaliste, hein, Winnie l'ourson, hein, faut pas déconner. Hein.
Winnie l'ourson Chine, ça arrive effectivement en quatrième position sur Google.
Oui,
il lui ressemble absolument pas du tout.
Non, mais on est bien d'accord qu'il lui ressemble pas, mais je te dis, c'est juste qu'il a caricaturé sous les traits de Winnie l'ourson, et c'est pour ça que ça pose beaucoup de problèmes.
La mauvaise idée.
Donc, globalement, ça faisait référence au Premier ministre chinois.
D'accord, bah écoutez, émission éducative, en plus d'être
unique. J'allais dire, incompétence permet du coup aux auditeurs qui sont comme nous de comprendre mieux la référence. C'est chouette.
Bah, j'aurais pensé justement, ça tout le monde à peu près le savait, mais du coup, c'est là où on voit que chaque culture est différente.
Et oui, c'est ça qui est beau.
Mais justement, on le savait, mais on a fait ça pour expliquer ça aux auditeurs.
Ah, mais ils sont forts. C'est là qu'on voit on a des chroniqueurs.
C'est
de,
que
de
du jeu d'acteur. Quoi,
non, mais tu vois, cette émission est d'intérêt public puisque même ces chroniqueurs sont des incultes notoires.
Mais non.
Moi, j'ai toujours dit que je faisais cette émission pour m'apporter de la culture. Hein. C'est vous qui m'apportez de la culture.
Ah, oh, c'est beau, c'est mignon.
Ah bah, ça,
jamais caché.
Donc bon, continuons. Pour le moment, les productions chinoises restent souvent cantonnées.
Ah putain. Lol.
Non, continue. Roule.
Au marché intérieur. Mais de plus en plus de super productions s'exportent dans le monde, ne profitant pas pour le moment de la qualité de leurs homologues américains. Souvent trop clichés, ayant des effets spéciaux datés, mais cela risque de changer d'ici les années à venir. Par exemple, sur Netflix, il y a The Wandering Earth, qui est du coup une super production chinoise où ils déplacent littéralement la Terre.
Ah.
Moi, j'ai trouvé très long et assez chiant, mais les effets spéciaux étaient pas trop dégueulasses par moments et dégueulasses par d'autres. C'était très bizarre et très très cliché sur plein de trucs. Mais du coup, juste pour dire que ça commence à s'exporter doucement mais sûrement.
Ouais.
La production cinématographique européenne, quant à elle, étant beaucoup moins coûteuse, demande moins de financement du coup et nécessite pour le moment pas cette injection de capitaux chinois et n'a pas vertu à s'exporter réellement en dehors des frontières, limitant ainsi l'impact chinois en lui-même.
Ouais.
C'est vrai que nous, pour le moment, en France et en Europe, on n'est pas trop touché par ça parce qu'en fait, on s'en branle.
Ouais, les seuls chinois qu'on voit, c'est dans les films de Luc Besson ou alors dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, quoi.
Par exemple, effectivement, hein, merci de le rappeler.
Bah, c'est pas sur le côté culturel en tout cas qu'on a impacté par la Chine.
Oui, après ça, c'est un débat qui est bien plus important dans lequel je m'emmènerai pas du tout. Une question se pose donc, en quoi cette surreprésentation de la Chine et de ses valeurs est un problème ? N'est-ce pas parce que nous sommes habitués à ces films hollywoodiens, vastes propagandes américaines depuis que nous sommes enfants que nous trouvons moins choquantes ?
Oui, c'est vrai ça. Pourquoi ?
Eh bien, pour ma part, la différence est ici. Certes, les valeurs colportées par Hollywood sont parfois nauséabondes et à la limite du bon goût, tant les USA sont présentés comme les sauveurs du monde, garants du sens moral absolu et dont la culture est meilleure que toutes les autres, mais cela évolue. De plus en plus de productions sont plus pragmatiques, présentant les limites et dérives du système américain, de plus en plus de productions incluent un sous-texte inclusif, parfois trop et sans finesse, mais globalement, ils essayent d'être plus tolérants et de porter un message du coup plus positif. Mais voilà où est mon problème, le modèle américain, bien que très faillible, est une démocratie se basant sur la liberté individuelle et l'acceptation des différences, du moins en théorie. J'insiste sur le « en théorie ». De son côté, la Chine est une pseudo-dictature censée être communiste mais qu'il n'en est rien finalement, qui ferme son pays à toute influence extérieure tout en essayant d'exercer la sienne à l'extérieur. C'est un pays où les habitants sont notés, humiliés s'ils ont des dettes via des annonces sur leur téléphone, les Chinois sont fichés, surveillés et une personne peut aller en prison pour avoir fait une caricature de son président, comme on le disait plus tôt. Et où des habitants de certaines îles se font littéralement tirer dessus à balles réelles pour défendre leurs convictions. On pense notamment à Hong Kong, n'est-ce pas ? Donc oui, tout ça, ça me fait peur, ça me fait même très peur. On voit depuis des années l'influence insidieuse d'un pays présenté de plus en plus comme une superpuissance sympathique et rassurante, comme un modèle à suivre, car vous voyez, on gagne tellement d'argent, on ne peut pas être méchant. C'est pas comme ça que ça marche, hein, bien évidemment. Donc j'antagonise pas mal la Chine ici, hein, bien sûr, tout n'est pas blanc ou noir, mais ça reste une source d'inquiétude pour moi, sachant que du coup, en voyant comme l'emprise de la culture chinoise prend finalement sur les médias que j'adore, et comme cela paraît normal car le changement est lent et pas agressif pour un sou. C'est insidieux, c'est lent, et ça m'inquiète. Et vous, messieurs, qu'en pensez-vous ?
Oula.
Allez, vas-y, Jules.
Qu'est-ce que vous en pensez, les gars ?
C'est le gars qui refile la patate chaude.
Allez, elle est brûlante, tiens, vas-y, prends-la.
Bah, c'est vrai que je me suis pas trop rendu compte moi-même, là, donc, du coup, t'en parles de tout ça, donc je t'avoue que là, chaud, Enfin, en fait, je connais pas trop d'infos à part ce que tu viens de nous en dire, donc logiquement, je suis plutôt d'accord avec toi, mais c'est vrai que j'ai pas trop d'avis personnel pour l'instant sur la question.
Bah, comme je disais, c'est quelque chose de plutôt insidieux, quoi.
Ce que j'aurais à dire, c'est que c'est logique comme cheminement, puisque la Chine est devenue une grande puissance, donc c'est normal qu'en tant que grande puissance, elle essaye d'exporter sa culture. Logique. Là où c'est dommage, c'est que ce soit encore une fois lié à un principe d'argent, en fait, hein, tout simplement, parce que il y a des films chinois qui sont très très bons et qui transportent pas forcément d'idéologie quelconque, enfin qui vont transporter l'idéologie de leur pays, mais où ça restera chinois, et tu sais que tu regardes un film chinois, quoi, tous les principes, tous les tigres et dragons, tout ça, ou
alors après
c'est ça, c'est le cinéma hongkongais surtout qui était très très bon,
dire c'est qu'il y a beaucoup de cinéma hongkongais dans ces films là qui est beaucoup plus,
il y a
une grosse
différence justement entre les deux,
c'est ça. Non, mais je viens de m'en rendre compte moi-même en parlant, et c'est vrai que ouais, effectivement, moi j'ai le seul souvenir que j'ai vis-à-vis de ça, c'est on l'a vu ensemble, Maxime, c'est La Grande Muraille de Chine avec Matt Damon,
ouais, qui était un appel du pied des chinois au public américain,
et qui fait que du coup c'est de la merde, en fait, parce que
Mulan, ça m'a fait exactement le même truc, c'est que c'était,
on est d'accord, dans La Grande Muraille, c'est un film chinois avec une superstar américaine.
Ouais.
Oui, voilà, c'est ça, c'est un film chinois, et tu fous une superstar américaine en plein milieu, une autre star télévisuelle d'Amérique du Sud au milieu, parce qu'il y avait Pedro Pascal dedans aussi qui jouait, tu saupoudres de Willem Dafoe, tu mets des Chinois partout, et t'as la recette du film qui est censé tout gagner au box-office, que beaucoup de gens ont apprécié, alors que personnellement, après c'est vraiment très personnel, on s'est marré devant ce film, hein, je crois, beaucoup.
Ouais, ça n'a pas plu beaucoup aux personnes qui étaient devant nous au cinéma,
mais moi personnellement, j'ai passé un bon moment jusqu'à ce qu'on m'interdise de me marrer, et à partir du moment où on m'a dit de fermer ma gueule, je me suis emmerdé.
Oui, c'est plus ou moins ça.
Alors ne faites pas comme nous, hein, c'est pas respectueux au cinéma de rigoler devant un film, même s'il est nul.
Non, évidemment.
Mais pour le coup, il est vraiment très mauvais, et surtout là, effectivement, il y a l'idéologie nauséabonde derrière, l'idée que la Grande Muraille est faite pour retenir des monstres de l'Orient de rentrer en Chine. Enfin, je veux dire, la métaphore, elle est à peine subtile. Oui. Ça parle des étrangers qui veulent rentrer en Chine, plus précisément, je pense plutôt les Mongols, mais on n'est pas sur une idéologie qui est très 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 simple. Pas de base, quoi.
Mais comme je disais, pire que ça, c'est que justement, c'est quand tu vois que dans Mulan, qui est une production 100% américaine, quoi, la même idéologie nauséabonde est présente. Par exemple, justement, les guerriers qui attaquent la Chine,
oui,
dans le film Mulan qui est sorti, c'est pas des Huns, c'est pas des Mongols.
C'est quoi?
C'est un peuple pseudo magicien sorcier dégueulasse qui essaye de se venger. Donc certes, c'est des étrangers, mais...
Et j'imagine que c'est un espèce de peuple arriéré à la con. En plus, t'as l'image, l'ennemi, il est inférieur à nous, mais il veut nous envahir quand même.
Pour le coup, c'est pas ça, c'est juste qu'ils sont méchants, quoi.
Oui, c'est juste, d'accord, t'as les méchants et t'as les gentils, t'as aucune justification de quoi que ce soit.
En fait, l'empereur a tué le père du méchant, et du coup, le père veut se venger, c'est tout.
D'accord.
Et ils sont comme des Huns, et ils... Ça veut dire que genre c'est des nomades et tout.
Oui, c'est juste.
Et t'as deux scènes pour les présenter.
Ils osent pas aller jusqu'au bout. Déjà rien que le film Disney en réalité a pas osé dire que c'était des Mongols, hein, parce qu'en vrai.
Oui, mais ça me choque moins dans un dessin animé.
Oui, bien sûr. Hein.
Mais il est sorti quand, Mulan?
Et il est pas sorti, en fait. Il est sorti sur Netflix, putain, lapsus de merde.
Sur Disney Plus. Et moi, je l'ai regardé de manière non légale. Et j'ai aucune honte à l'admettre, parce que c'est un film.
Moi, j'attends qu'il soit disponible gratuitement, parce qu'il le sera à un moment donné, quoi.
Ok, parce que justement, j'allais dire, je pensais qu'il n'était pas encore sorti.
Mais il sortira jamais, je pense qu'ils ont dû sentir l'échec, et du coup, ils ne l'ont pas sorti.
Ouais, d'ailleurs, c'est encore plus, ça a été un échec à cause du coup des 20 balles qu'ils demandaient de payer.
Oui, bah ça, c'est parfaitement honteux. Deux choses. Déjà, stylistiquement, La Grande Muraille, en plus, je trouve que l'Asie essaie de travestir ses films de sabre et ses films d'arts martiaux pour coller à un public occidental, mais du coup, ça donne un style complètement pourri, d'une part.
Ouais. Oui.
Et d'autre part, par rapport à Mulan, en plus, là, Disney est en train, en plus de copiner avec la Chine, est en train, selon moi, toute petite parenthèse, hein, de tuer le cinéma, dans le sens où Mulan, c'est un coup d'essai. Mm. Pour si on peut outrepasser les salles de cinéma pour distribuer nos films, bah, ils iront se faire voir et on distribuera avec Disney+, et c'est marre, quoi.
Alors effectivement, après là, c'est un autre débat.
Parce en Chine,
le streaming est beaucoup plus populaire que le cinéma, et donc Disney a tout à gagner à développer le streaming en Chine.
Mais d'ailleurs, il s'est cassé la gueule en Chine, hein, le film Mulan. Il a très peu marché. Il s'est il n'a pas été apprécié du tout.
En même temps, s'il crache à la gueule de la culture chinoise, c'est logique.
Mais apparemment, il y a des sigles qui voulaient rien dire.
En fait, c'est un film qui a le cul tellement entre deux chaises qu'au final, il tombe au milieu, quoi.
C'est ça. Mmh. Bah, c'est vraiment l'exemple inverse de La Grande Muraille. C'est-à-dire, La Grande Muraille, c'était un film chinois qui essayait du coup de marcher sur le plate-bande de Hollywood. Et là, c'est un film profondément américain qui essayait de marcher sur les plates-bandes de la Chine, quoi.
Mmh. Et mais ils le font avec des gros sabots.
Mais dans les deux cas, c'est de la merde.
Est-ce qu'on pourrait pas dire que dans les deux cas, c'est un échec. Ouais, elle était obligée d'arriver cette transition, je suis désolé, c'était
évidemment,
il fallait qu'elle arrive. Parce que justement, je vous dis pas ça au hasard, mesdames et messieurs qui nous écoutez, eh bien c'est parce que Sébastien nous a prévu eh bien, une petite chronique sur les échecs.
Effectivement, nous allons aujourd'hui parler d'échecs. Alors, pas d'échecs sentimentaux ou d'échecs professionnels, mais simplement d'échecs, du jeu d'échecs.
C'est plus rassurant du coup.
Appelé communément le roi des jeux ou même le jeu des rois. Alors les échecs, ça fait partie des jeux les plus connus au monde. On estime que, à l'heure actuelle, dans le monde, un adulte sur quatre connaît au moins, vaguement, brièvement, les règles du jeu d'échecs ou en a déjà entendu parler.
C'est vrai, ça.
D'accord.
Okay.
Et il faut savoir qu'il y a plusieurs millions de joueurs d'échecs dans le monde.
Okay.
Et que tous les pays du monde, presque, ont des joueurs d'échecs, même amateurs, en leur sein.
D'accord.
Ce qui est pas mal.
Ouais, c'est pas mal. Ouais.
C'est ouf. C'est le jeu le plus connu et le plus joué sur Terre, quoi, en fait.
Mais c'est vrai qu'en Asie, ils jouent plutôt au Go ou au Shogi. Parce qu'en fait, le Shogi, c'est une espèce d'échec japonais, quoi, pour plus ou moins. Okay. Mais qui est beaucoup plus complexe.
Le jeu d'échecs, d'où vient-il? Tous les historiens du jeu ne sont pas tous d'accord, mais il semblerait que l'origine du jeu d'échecs se trouve en Inde, du moins dans une région de l'Inde actuelle.
D'accord.
À une époque, pareil, également discutée. Est-ce avant Jésus-Christ? Est-ce après Jésus-Christ? En tous les cas, il y a un jeu de stratégie qui apparaît il y a entre 1500 et 2000 ans dans le monde indien. Là où on a une trace précise de ce jeu, c'est dans le monde arabe, au Xe siècle. Alors, le jeu, il est assez différent de celui qu'on connaît aujourd'hui. Déjà, au niveau des pièces, il y a un roi, le même que le nôtre aujourd'hui, hein, qui se déplace simplement d'une case, mais dans n'importe quelle direction. Un vizir qui se déplace de deux cases en diagonale.
D'accord.
Un éléphant qui se déplace d'une seule case en diagonale. Mmh. Le cheval qui est l'équivalent de notre cavalier actuel qui a un déplacement en L. Un char qui se déplace d'autant de cases qu'il veut à l'horizontale ou à la verticale. Et un soldat qui se déplace d'une seule case en avant. Ce jeu d'échecs arabe, il va très vite arriver en Europe, et là en Europe, il va connaître plusieurs modifications.
Mmh.
Alors, au point de vue des règles, le jeu reste le même, le but c'est de battre l'armée ennemie en capturant le roi, ou du moins en le mettant en échec, c'est-à-dire l'attaquer et
D'accord.
le camp adverse n'est pas en possibilité de défendre son roi,
et mat, ouais.
en le déplaçant ou en interposant une de ses pièces pour le protéger. Cette règle reste
ouais.
dans les échecs européens, mais par contre, les pièces, elles, vont mmh. énormément changer.
Et oui.
Alors, le roi, lui, ne change pas. Par contre, l'éléphant, qu'on dit filu en arabe, devient le fou qui
ouais.
se déplace en diagonale d'autant de pièces qu'il veut. Le cheval, on l'a dit, reste le cavalier et garde son déplacement. Le char, qu'on dit roup,
la tour.
Devient la tour, la roup en anglais. Le soldat devient le pion. Et la pièce qui connaît le plus de changements, c'est le vizir.
Ce qui fait que le vizir, c'est la reine, du coup.
En effet, le deuxième homme de l'État dans le monde arabe, en Europe, devient une femme, une reine, et ainsi une dame.
Mmh.
Et de son déplacement en diagonale, on passe au déplacement actuel de la dame, donc dans la direction qu'elle veut, d'autant de cases qu'elle veut, tant qu'il n'y a pas d'obstacle.
Ouais, elle devient plus pétée, quoi. Elle a subi un upgrade.
Et ces règles du jeu d'échecs, on le sait qu'elles sont fixées en Europe au 15e siècle.
Ah oui, donc c'est très récent, en fait.
Et depuis le 15e siècle, ces règles n'ont pas changé.
Ok, d'accord.
Le jeu actuel d'échecs auquel on joue, c'est le même. Enfin, les règles ont été fixées au 15e siècle.
Ouais, vraiment.
Et bien sûr, depuis, le jeu d'échecs s'est énormément répandu et s'est même démocratisé. Hein. On est passé d'un jeu qui était joué surtout dans les cours, par la noblesse, les aristocrates, à un jeu joué par absolument tout le monde, ou du moins n'importe qui aujourd'hui, s'il s'y intéresse, peut se mettre aux échecs.
Ouais.
C'est un jeu qui a un tel succès qu'il existe, bien entendu, un championnat du monde des échecs, et c'est même reconnu comme un sport officiel. Il y a des fédérations nationales d'échecs et bien sûr une fédération internationale.
D'accord.
Comme tout sport reconnu, homologué, il y a un champion du monde. L'actuel est Magnus Carlsen, depuis 2013, Et il faut savoir qu'il y a un champion du monde depuis le 19e siècle, puisque le premier d'entre eux s'appelait Wilhelm Steinitz, et il a été champion d'échecs entre 1886 et 1894. Et le principe est très simple, les joueurs des différents pays doivent être classés au niveau mondial, ils doivent avoir obtenu des titres mondiaux, donc champion national, champion d'un secteur du monde, etc. Et ces joueurs classés s'affrontent entre eux au tournoi des candidats. Le tournoi des candidats, ça permet de choisir le joueur, le challenger, qui aura la chance d'affronter le champion du monde pour récupérer le titre. Et alors les échecs, comme c'est un sport de très haut niveau, il y a eu énormément de théories. C'est un jeu qui a été énormément théorisé. Surtout, c'est un sport de l'esprit, donc il y a énormément de théories mathématiques, hein, vous vous en doutez, qui ont été élaborées autour du jeu d'échecs. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce serait extrêmement compliqué, mais sachez qu'aux échecs, il y a déjà ce qu'on appelle des patterns, c'est-à-dire des schémas tactiques qui se répètent et, de fait, que les joueurs apprennent pratiquement par cœur pour pouvoir utiliser les meilleures stratégies, les meilleures tactiques lorsqu'ils jouent. Les meilleurs champions du monde actuels connaissent des centaines et des centaines et des centaines de schémas de stratégie pour leur jeu. Dans ce même principe, il faut savoir que les pièces des échecs ont des valeurs, ont des notations de la moins forte à la plus forte qui permettent également de définir des stratégies. Lorsqu'on va échanger les pièces, lorsqu'on va chercher à capturer des pièces ennemies ou lorsqu'on va accepter de sacrifier, de perdre une de ces pièces, on va faire en sorte de prendre à l'ennemi les pièces qui ont plus de valeur et pour les nôtres, essayer de perdre celles qui ont le moins de valeur. Alors parmi ces pièces, à votre avis, quelle est celle qui a le moins de valeur ?
Pièce qui vaut le moins de points ?
Je dirais le pion, ouais.
Ouais.
Alors, la pièce qui a le moins de valeur, effectivement, c'est le pion. Étant donné qu'il ne se déplace que d'une case en avant et qu'il ne peut prendre que d'une case en diagonale devant lui. D'accord ? Donc c'est la pièce qui a le moins de puissance durant la partie. Ceci dit, le pion a un avantage par rapport aux autres, c'est que si on arrive à le pousser au bout de l'échiquier jusque dans le camp adverse et qu'on atteint la dernière ligne, ouais. Eh bien il y a ce qu'on appelle une promotion et on peut transformer le pion en n'importe quelle autre pièce excepté un roi, puisque le roi, il n'y en a qu'un seul.
Fameuse promotion.
Donc le pion est la pièce qui a le moins de valeur, mais il peut tout de même être très utile si on sait bien s'en servir. Ensuite, vous avez des pièces qu'on dit légères. Il y a deux pièces donc qu'on dit légères, qui valent toutes les deux le même nombre de points, qui arrivent juste après le pion. Eh bien, il s'agit du fou et du cavalier. Ce sont des pièces considérées comme légères. Alors pour le fou, tout bêtement, parce que le fou est efficace lorsqu'il marche par paire. C'est-à-dire vous avez un fou de case blanche et un fou de case noire. Si vous perdez un des deux fous, eh bien, il y a une partie des cases, blanche ou noire, sur lesquelles vous avez beaucoup moins d'impact. C'est pour ça que c'est une pièce légère, c'est parce que c'est une pièce qui peut être très forte. Si elle marche en duo, à partir du moment où on perd un, on perd une grande capacité. Pour le cavalier, c'est une pièce légère parce que ses capacités de déplacement sont assez limitées. Alors certes, il peut sauter par-dessus les autres pièces, ce que ne peuvent pas faire les autres, mais il est moins facile à placer et à manœuvrer que d'autres pièces. Et puis surtout, en général, il va servir à être sacrifié ou à être de bloqueur pour tirer un avantage de la partie. Ensuite, vous avez les pièces lourdes, à savoir la tour, qui vaut 5 points, et puis la dame, qui vaut 9 points. La dame est évidemment la pièce qui vaut le plus de points, puisque c'est celle qui a la plus grande capacité de déplacement. Encore une fois, dans la direction qu'elle veut, d'autant de cases qu'elle veut tant qu'elle ne rencontre pas un obstacle. Et puis donc, la plus grande capacité offensive, puisque c'est elle qui peut capturer ou défendre le plus facilement une ligne. Enfin, il y a le roi. Alors le roi, c'est un peu particulier, à la fois il vaut une infinité de points, parce que c'est la pièce la plus importante, bien sûr, c'est celle qu'il ne faut surtout pas capturer, c'est celle qui permet, enfin qui fait perdre si elle est mise en échec,
ouais.
Et également un point, tout simplement parce qu'en termes de déplacement et de capacité offensive, eh bien le roi est très limité. Il se déplace dans la direction qu'il veut, mais d'une seule case, et puis pour attaquer, le roi ne peut attaquer une pièce que si il ne se met pas en échec en attaquant, évidemment. Du coup, son utilisation est très limitée. Alors, pour terminer cette chronique très courte, en somme, hein, j'ai décidé de faire un petit jeu sur les différents records qui ont été atteints aux échecs. En effet, comme toute discipline extrêmement pratiquée, il y a des records, il y a des choses assez extraordinaires qui ont été accomplies, par des joueurs d'échecs. J'en ai sélectionné 6 au total, et le petit jeu, ça va être essayer de deviner quels sont ces records.
Eh ben écoute, allons-y.
Alors, on va commencer par la plus longue série de victoires. Je dis bien victoires. Combien de matchs consécutifs ont été gagnés par un seul et même joueur, à votre avis?
529.
Énorme. 529, ça me semble tellement gigantesque. 193. Ouais, il a mis la barre tellement haut avec ses 529 que...
Eh, moi, je voulais vous aider là, à gagner, les gars.
Ouais, j'ai le droit de changer, du coup. Je dirais 50.
Bah, on va descendre un peu, alors. On va faire 45.
42.
Eh bien, la plus longue série de victoires, elle est détenue par le joueur américain Robert James Fischer, dit aussi Bobby Fischer, qui est devenu champion du monde, d'ailleurs, en 1972 face au russe Boris Spassky. Eh bien, justement, entre 1970 et 1972, alors qu'il essayait d'accéder au titre mondial, Bobby Fischer a enchaîné 20 victoires consécutives.
D'accord.
La dernière, c'est 20 victoires, et bien évidemment, sa victoire face à Boris Spassky et son accès au titre de champion.
Okay.
D'accord.
Ensuite, deuxième record, la plus longue série, cette fois-ci, sans défaite. Alors, ce que j'entends par sans défaite, ça compte les victoires, bien entendu, mais aussi les matchs nuls. Puisque, techniquement parlant, un match nul n'est ni une victoire, ni une défaite. Donc la plus longue série de victoires et de matchs nuls.
42.
Ah, du coup, j'aurais
dit forcément que ce soit moins, donc je dirais 8.
Bah ouais.
Bah non, c'est plus, justement. Parce que avant, il comptait que les victoires, okay. Uniquement les victoires. Là, c'est les victoires ou les nuls. Donc c'est beaucoup plus, à mon avis. Donc moi, je maintiens mon 42.
30.
Eh ben, je maintiens mon 45 de tout à l'heure. Je talonne.
Eh bien, cette longue série, elle est détenue par Mikhail Tal, un joueur de l'ex-URSS, qui a enchaîné 95 matchs sans défaite entre 1973 et 1974.
Du coup, il a dû avoir beaucoup de nuls.
Putain.
En fait, le gars, il était doué pour pas perdre.
C'est déjà vachement bien, hein.
C'est beau. Bah, en vrai, ouais.
La troisième, la plus grand nombre de simultanés. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'une simultanée? Une simultanée, c'est très simple, c'est le nombre de parties en simultané, hein, du coup, en même temps, qui est capable de jouer un joueur. Faut savoir, ça se fait beaucoup, hein, les joueurs professionnels d'échecs. Alors, en général, c'est plutôt des parties d'exhibition, d'accord? C'est pour faire le spectacle, c'est pour faire la promotion des échecs, mais ça arrive très régulièrement que des joueurs titrés, classés, très talentueux, mènent plusieurs parties en simultané. Et donc, ce que je vous demande, c'est le plus grand nombre de parties simultanées, le plus grand nombre de parties jouées en même temps à votre avis.
D'accord.
20.
Oh putain la vache. Je sais pas, 10. C'est pas beaucoup 10.
Ah c'est pas beaucoup.
Ouais.
Ok, bah une centaine.
150.
Moi j'avais dit 20, je m'en tiens mon 20.
Eh bien, ce record, il est détenu par Ehsan Gaem Magani, un joueur iranien, qui, il y a quelques années de cela, a disputé 604 parties en simultané.
Oh putain.
La logistique devait être affreuse.
Ça devait être horrible.
Ce qui est quand même énorme. Hein. Et sur ces 604 parties, il a réussi à en gagner 580, à n'en perdre que 8 et à faire 16 matchs nuls. Je vais vous expliquer un petit peu la performance. Quand même. Sur 604 parties, 580 gagnés, c'est quand même excellent. Alors, il faut quand même savoir que durant ces simultanées, en général, parmi les adversaires, comme c'est du spectacle de l'exhibition, on fait jouer un peu tout le monde, aussi bien des joueurs un peu expérimentés, que des débutants, des adultes comme des personnes plus âgées, comme des enfants. Donc, c'était pas non plus des joueurs de son niveau qui étaient face à Ehsan Gaem Magani, mais tout de même, 580 parties gagnées pour 604 parties simultanées, c'est assez impressionnant. Quatrième record, le nombre de simultanées, mais cette fois-ci joué à l'aveugle. Qu'est-ce que j'entends à l'aveugle? Eh bien, tout simplement, le joueur a un bandeau sur les yeux, ou du moins quelque chose qui l'empêche de voir le plateau de jeu, ou en l'occurrence, les plateaux de jeu. Donc le joueur joue de tête. Je vous parlais tout à l'heure de cette capacité qu'avaient les joueurs professionnels à retenir différentes stratégies. Et bien là, c'est tout simplement retenir une partie et ça se rappeler quel coup on a joué, quel coup a joué l'adversaire. Bon, déjà, ça c'est compliqué. Maintenant, à votre avis, combien de parties au maximum en simultané ce qu'un joueur est capable de jouer?
J'imagine qu'on est sur quelque chose d'élevé aussi.
J'ai envie de dire 20.
193.
Sur... Parce que quand même, le gars, il faut qu'il se souvienne de chaque truc sur chaque plateau quand même.
Je me dirais 15. C'est déjà énorme.
Ouais, 25.
Alors ce record, il est détenu par l'américain Mark Lang, qui a disputé 46 parti à la fin.
Mais comment c'est humainement possible?
Il en a gagné combien
de faire ça?
Ah, je sais pas du tout.
Sur ses 46 parties, il a eu 25 victoires, 19 nuls et seulement 2 défaites.
Mais en fait, c'est des robots, c'est ça? Ils ont été créés par des extraterrestres.
Hein. C'est ça. Bah non, parce qu'ils se font battre par des ordinateurs.
Mais j'arrive déjà pas à retenir ce que j'ai fait il y a 5 minutes.
Cinquième record, la partie la plus longue en termes de temps. Quelle a été la partie la plus longue jamais disputée?
Ah, une semaine.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, ça doit être une question de jour.
Semaine.
Ouais, c'est sûr que c'est une question de jour.
Moi, j'aurais tendance à dire 50 heures. Allez.
Ah, moi, j'ai dit une semaine, 7 jours.
Ouais.
Et ils se sont pas reposés le dimanche.
Allez, 4 jours. 4 jours.
C'est ça. Les dieux. Les dieux des échecs.
Alors, ce record, il est attribué à deux joueurs, hein, parce qu'il faut deux joueurs pour jouer aux échecs, qui s'appellent Nikolic et Arsovic. Alors non, c'est pas le début des blagues, hein. Nicolik et Arsenik.
C'est Nicolik et Arsenik qui sont sur une moto.
Qui, en 1989, à Belgrade, ont disputé une partie sans limite de temps, qui a duré 20h15.
Ah oui, en fait, ça va.
Ce qui est déjà énorme. Enfin, ça va, c'est ouais, les gars, ouais. Tu sais, tu te rappelles, tu prends pas de pause, hein. C'est, t'as et t'as l'horloge qu'il faut clipser à chaque fois.
Ouais, hein, un limité. Truc vraiment démentiel, je suis presque déçu.
Oh, c'est... Et grognon là. 20h c'est déjà bien.
Il y a eu 269 coups échangés et cette partie s'est soldée par un match nul. Donc 20h15 à se concentrer sur la seule et même partie, c'est assez impressionnant. Imaginez déjà des joueurs qui sont pleinement concentrés pendant 1h30 simplement sur une partie, c'est bien un exploit de maintenir un tel niveau de concentration. Là, pendant 20h15, à la fin, il devait être complètement niqué. Enfin, sixième et dernier record, le jeu d'échecs le plus cher du monde. Puisque, bien entendu, vous avez des fabricants de jeux d'échecs, et puis, ben, certains profitent de la notoriété de ce jeu pour, voilà, créer des jeux dans des matériaux très rares, très précieux, et il existe un jeu d'échecs le plus cher du monde.
255 millions.
Wow. Ouais, si t'es pas loin, ton 7, j'augmente.
Ah, j'ai mis 250 millions.
Hein. Le mec le plus petit du monde, tu sais.
Ce jeu d'échecs, il a été fabriqué par le bijoutier Jewel Royal. Vous excuserez mon accent anglais à quelques points. Et ce jeu d'échecs de Jewel Royal, il vaut 1,2 million d'euros.
Ça va,
c'est raisonnable.
Oui, ça va.
C'est un jeu qui est en or, en argent. Alors l'or pour les pièces blanches et les cases blanches, l'argent pour les pièces noires et les cases noires, incrusté de rubis pour les parties en or et de saphir pour les parties en argent. Voilà, donc un jeu qui vaut 1,2 million d'euros, sachant que le deuxième jeu d'échecs le plus joué du monde, c'est un jeu japonais qui lui, enfin les créateurs sont japonais, et il vaut quant à lui 960 millions et quelques d'euros. Voilà, donc c'était pour vous donner un petit peu l'idée des records, des choses absolument... impressionnante et rocambolesque qui existe dans le monde des échecs. Voilà. J'espère que cette chronique vous a plu. J'aurai grand plaisir à vous retrouver très bientôt pour une autre chronique. Je ne sais pas encore laquelle, mais j'y réfléchis. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.
Mais merci à toi, Sébastien, pour cette,
mais oui, mais oui.
Pour ta première chronique. On va bien, je pense.
Ah oui, c'était la première.
Ça, ça fera plein de, on va piquer les oreilles de tous les auditeurs. Bon, voilà. Ça me semble être une bonne idée.
Merci.
Bah, bon.
Du coup, j'en profite juste pour ajouter un petit truc, si possible. Pour dire, là, du coup, tout ce que t'as dit par rapport aux échecs, ça m'a beaucoup rappelé, comme je t'ai dit, le Shogi, un manga que je connais qui est là-dessus, qui s'appelle March Like a Lion, et du coup, qui raconte la vie, le parcours d'un joueur professionnel de Shogi au Japon. C'est très réaliste, hein, pour une fois, c'est pas les trucs esprit shonen où le gars, il a 8 ans et il devient le meilleur joueur en 6 mois. Non, pour le coup, c'est un gars de 17 ans qui, du coup, quitte plus ou moins le collège pour devenir joueur professionnel de shogi, et il galère sa race, il est dépressif, et ça raconte quand même pas mal tout ce que t'as raconté, c'est-à-dire sur le monde pro du shogi, et sachant que le jeu du shogi, c'est un jeu qui ressemble très fortement aux échecs. Il y a le même principe, par exemple, que quand t'arrives de l'autre côté du plateau, t'as du coup une promotion. La seule différence, c'est que au niveau des coups, tu vas avoir plutôt des généraux d'argent, des généraux d'or, et en fait que chacun va pouvoir que battre les ennemis sur un nombre de cases limité autour de lui, plus que pour les déplacements, en fait. Mais du coup, c'est plus complexe que les échecs. Mais si, par exemple, vous aimez les mangas ou l'animation, il y en a pas vraiment d'échecs de mangas qui me viennent à l'esprit, mais il y a March Like a Lion, qui est très sympa et qui parle de shogi. Voilà.
Ben, du coup, merci Seb pour toutes tes informations. Merci aussi à Maxime pour tes petites informations supplémentaires. Ce que je vous propose, c'est que je fasse quand même un petit débat qui ira, je pense, très 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 vite. C'est un débat que j'ai envie de faire depuis un certain temps. Je sais que les gars, vous avez eu des vies, plusieurs vies dans votre vie, parce que vous êtes des gens qui aimaient voyager, qui aimaient bourlinguer un petit peu. Et il y a un sujet qui m'est venu en tête. Je sais que là, on a un petit melting pot de plein de gens différents, mais on a tous vécu au moins un moment une fois à la campagne et à un moment donné une fois à la ville. Et on a tous reçu des expériences à la fois positives et négatives en fonction des personnes qui y sont présentes. Et du coup, j'aurais voulu avoir un petit peu votre point de vue sur l'idée de ce que vous préférez, la vie rurale ou finalement la vie urbaine. Je sais qu'à l'heure actuelle, attends, on va faire un petit topo. À l'heure actuelle, Sébastien, tu vis à la campagne, on est d'accord ?
Alors, en ce qui me concerne, je viens de la campagne. Je vis actuellement pour mon travail dans une petite ville.
T'as déménagé en ville? Et là, t'es à Dijon, du coup, en ce moment, alors?
Je me rends régulièrement dans une grande, même très grande ville qui est Bruxelles.
Ah, putain, je savais pas que t'étais retourné à Dijon. Et bah, du coup, tu seras l'exemple du citadin. En fait, je suis le seul, seul campagnard, parce que toi, Jules, t'es retourné à Chambéry.
Ouais. Ouais, enfin, après, il y a quand même une différence entre petite ville et grande ville aussi.
Ah, bah, tiens, ça, on pourra en parler, effectivement. Et bah, du coup, Maxime, t'as quelque chose à nous dire là-dessus, puisque t'as l'air chaud bouillant à ce niveau-là. Vas-y, si t'as envie de parler. Je sais que t'as pas forcément... T'as vécu à la campagne quand t'étais jeune, t'en as pas forcément une très bonne expérience, je crois.
Alors moi, je sais que du coup, j'habite à Lyon. Effectivement, j'ai vécu jusqu'à 14 ans au fin fond du trou du cul des Ardennes.
Côté de Charleville-Mézières.
Un petit village de quoi, allez, 800 habitants à tout péter, qui s'appelait Vrigne-aux-Bois, juste à côté de Charleville-Mézières, évidemment. Bah c'est vrai que moi, j'aime beaucoup Lyon. Après, c'est pas tellement que je suis plus ville que campagne. C'est juste qu'il y a beaucoup de commodités en ville qui m'arrangent beaucoup. Ça veut dire, t'as plein d'endroits où sortir. C'est très facile de se déplacer quand t'as pas le permis, parce que j'ai pas le permis, du coup, parce que j'ai jamais eu besoin, finalement, de le passer. Ce qui serait totalement impossible à la campagne, évidemment.
Oui.
Donc après, la campagne, moi, j'aime pas spécialement les bestioles. J'aime pas spécialement être isolé non plus. Donc si tu veux, moi, ça concorde forcément avec la manière dont je vis ma vie. Moi, j'aime bien être proche des choses, j'aime bien avoir la fibre, j'aime bien avoir plein de magasins, même si j'y vais jamais. Donc globalement, c'est ça le truc. Moi, je suis vraiment très citadin dans ce que je fais, mais pas citadin. Oui, on va se faire un petit brunch, ça va être trop bien, t'inquiète pas, je connais un nouveau bar trop bien, la bière est à seulement 12 €.
La caricature du parisien, quoi.
Voilà, globalement, Paris, par exemple, j'y ai jamais vécu, mais le peu de fois où j'y étais, j'ai pas du tout aimé, parce que y a beaucoup trop de monde. Je sais que Lyon, justement, c'est une ville que j'aime, parce qu'on a l'impression quand même c'est une ville à taille humaine, mais je déteste les foules.
Du coup, bon, Maxime, on a ton point de vue sur ce qu'est l'idée de vivre dans une ville à taille humaine, que tu préfères la fibre, tout ça, mais que t'es pas non plus le bobo parisien de base. Sébastien, toi, tu...
Non, surtout que j'aime pas les foules.
Tu as vécu vraiment dans les deux récemment, en plus, que t'as fait ton confinement à la campagne, et qu'en ce moment, t'es aussi entre Bruxelles, donc qui est quand même... Bon, ça reste une ville à taille humaine aussi, et...
C'est quand même une grosse ville européenne.
Et Lyon, qui est clairement, vraiment, pour le coup, une ville à taille humaine.
C'est l'avantage, si on peut dire, d'avoir l'expérience un peu de ces trois milieux différents. Et en ce qui me concerne, je suis plutôt petite ville campagne. Il faut savoir que les grandes villes, moi, c'est pas quelque chose que j'apprécie particulièrement. Au contraire, je me sens plus à l'aise dans une petite ville comme Dijon avec tout à proximité. Et je ne cache pas que d'ici quelques années, habiter dans une petite maison à la campagne, ou du moins proche campagne, une petite ville, ça m'irait très très bien. Voilà.
Sympa.
D'accord. Ok. Donc pour le moment, profiter de la jeunesse dans une petite ville à taille humaine, et puis après. S'installer peut-être un jour à la campagne.
La petite retraite dans la campagne, quoi.
Dans un petit lopin de terre, quoi. Alors que toi, Maxime, jamais, t'es pur citadin, toi, tu restes ville...
Je me ferme
tu
pas
à la possibilité, mais pour l'instant, c'est ville-ville.
Mais pour le moment, non, je suis pas très campagne. Tu sais, mais je suis pas très nature, en fait, en soi. Moi, les randonnées, tout ça, ça m'emmerde. Donc, non, mais toi, tu sais bien, mais tu me poses la question.
Oui, je te pose la question, mais je réponds aussi que je sais, pour montrer qu'on est proche, Maxime, devant les auditeurs.
Oui, on est très, très proche. Mais du coup, non, c'est pour ça que globalement, je suis pas très nature. Okay. Donc, ça avoue que moi, ça m'intéresse pas tellement.
Le petit lopin de terre. Et toi, Jules, est-ce que c'est.
Idéalement, c'est vrai que je suis plutôt de nature à me dire que j'aime bien bouger dehors, quoi.
Ouais.
Dehors, pas sur une place, plutôt en montagne. En faire des trucs en extérieur, que ce soit escalade, spéléo, machin, c'est vrai que j'aime bien bouger.
Ouais.
Après, du coup, je vois le fait de vivre en ville, pour l'instant, à mon échelle, à mon âge, aussi bien avec ma situation, je fais des études ou machin, comme un moment où t'es bien obligé d'eux. Parce que c'est là qu'en fait, une ville, c'est un pôle d'attractivité. C'est pas pour rien qu'il y a plein de gens, c'est qu'il y a plein de choses qui s'y trouvent que là, en fait. Donc bon, mais après, oui, idéalement, c'est sûr que me retrouver un peu plus excentré en campagne et tout, ça pourrait être cool. Alors après, il y a deux problèmes à ça, c'est que déjà, tu peux te retrouver distant, de tous tes potes pour coup, ou de lieux de vie. Enfin, je veux dire, c'est con, mais quand tu rentres de ton boulot, il est 20 h, tu bouffes et tout. T'as fait 20 minutes de route pour arriver là où t'es, parce que qui dit campagne dit bagnole aujourd'hui, t'as pas forcément la motive après de reprendre ta bagnole pour repartir en ville, pour aller boire un verre, un seul, parce qu'après tu reprends la route, enfin c'est con, mais
ça casse ça aussi,
t'excentres aussi socialement, quoi. Si t'as pas tous tes potes dans le même village où t'es, ça devient donc à voir. Et puis même ce côté de dépendance à la voiture, en fait, est assez je trouve problématique même sur la durée. Enfin, je veux dire, en ce moment, il y a plein de questionnements qui ressortent et autres, et je trouve que c'est pas non plus stable de devoir prendre la voiture tout le temps. On pourrait dire pour le télétravail, il y a des choses qui sont en train de se faire, mais enfin, il y a pas que ça. Tu vois, par exemple, rien que pour aller en montagne, je sais que la bagnole est relativement indissociable, parce que aujourd'hui, te faire une randonnée à la montagne, c'est prendre une journée. C'est la journée que t'as pris dans la semaine pour faire ça. Et du coup, t'hésites pas. Enfin, si tu voulais vraiment avoir la vraie relation aux choses et tout, bah, faudrait que t'ailles à pied jusqu'à l'endroit où tu veux commencer ta balade.
Ça, ta balade depuis chez toi, quoi, en fait.
Tu peux rajouter facilement des heures, quoi. C'est ça, tu rajoutes facilement plusieurs heures. Mais après, la ville en elle-même, même si on part sur ce côté-là un peu écolo ou machin, en soi, c'est pas. Et rien que par rapport à l'apport en bouffe, je veux dire, une ville, elle est entièrement sous perfusion de la campagne. Et ça, clairement, il y a un moment donné où ça va plus tenir du tout, parce que c'est que des camions qui amènent ça. T'enlèves le pétrole qui alimente tes camions, et bah, ça va être compliqué, en fait, de nourrir tout le monde.
Ça, en même temps, il y a un moyen de déplacement comme ça, qui soit plus écolo, ce serait le train, du coup.
Oui, c'est sûr. Mais le problème, c'est que le train ne suffirait pas. En fait, compte tenu de ce que j'avais écouté, je sais pas si vous connaissez Jean Covici.
Bah dans tous les cas, il faudra bien transporter le truc des trains jusque dans
Mais justement, moi, c'est ce que je me disais naïvement, c'est que bah il suffit de remplacer le mode de transport, mais du coup, j'ai écouté un gars qui s'appelle Jean Covici, je sais pas si vous le connaissez,
c'est pas du tout.
Enfin, c'est quelqu'un qui est extrêmement précis sur tout ce qui est énergie sur la transition énergétique, ce qu'on aimerait appeler la transition énergétique.
Ouais.
Putain, ce gars-là te sort des chiffres, te sort des trucs où tu dis ah ouais non mais c'est, et notamment par rapport à ça, il dit oui, ben, les villes comme on les connaît aujourd'hui sont vouées à disparaître totalement, parce que même si je remplace le mode de transport, ça veut dire qu'en fait tu peux pas acheminer autant que ce qu'elle demande.
Ouais, d'accord.
Puisqu'elle demande de plus en plus, en fait ça ne marche pas. Il y a qu'une seule manière, une façon de faire, c'est de diminuer le niveau de vie par 4, quoi. Il y a pas d'autre moyen, en fait.
Ouais.
Et encore, ça, c'est la version
que le plus drôle, c'est que quasiment tout le monde déserte les campagnes, en plus.
Justement, j'allais y venir, je crois qu'il y a, il me semble qu'il y a une inversion un peu en ce moment qui est en train d'être pris en cours, et qu'il y a de plus en plus de gens qui vont vers la campagne, des citadins qui vont vers la campagne.
Bah, t'as les néo-ruraux, mais.
Ouais, mais pas tous. Comme je dis, à la campagne, va trouver un ophtalmo, quoi.
Ah, si c'est des déserts médicaux, ça, c'est sûr. Bah, il faudrait faire vivre. Mais de toute façon, petit à petit, plus les gens se déplaceront vers la campagne, plus forcément, il y aura besoin de structures pour ces gens qui sont présents. Donc, par définition, il y aura besoin d'école, il y aura besoin de médecins.
Ah, mais après, tu vois, là, on part sur les néo-ruraux qui font vraiment de l'agriculture. La plupart des néo-ruraux aujourd'hui, c'est juste des gens qui vivent à l'année, effectivement, en campagne. Enfin, le fait est qu'ils ont quand même de la bagnole pour aller au boulot, parce que leur métier, lui, ne change pas. Et
il
est toujours soumis à la ville, en fait.
Clairement, le gros problème des campagnes, et j'en sais quelque chose, parce que je vis en Ardèche en ce moment, c'est clairement les transports. Hein. Je vis dans le seul département français où il n'y a pas de train. Donc, déjà, rien qu'à partir de ce moment-là, il y a un problème, quoi. Mais en même temps, en ville aussi, il y a un vrai problème, parce que pour avoir vécu également aussi en ville, les transports en commun deviennent de plus en plus chers, alors qu'à l'inverse, ils devraient devenir de moins en moins chers, si tu veux que les gens se déplacent moins avec leurs caisses. Après, moi, je fais parler de la ville que je connais, Lyon. Lyon, c'est de plus en plus cher. Il y a de plus en plus de gadgets inutiles dans les trams. Ça te donne l'horoscope le matin. T'as des informations sur la ville de Lyon. Mais j'ai envie de dire que je m'en bats les couilles, en fait. Ça, je veux bien l'avoir en moins. Par contre, je veux bien que le billet, il coûte 1,40€ et plus 1,90€, quoi. Clairement, il y a un souci à ce niveau-là. C'est-à-dire que faudrait que les villes, comme les campagnes, s'adaptent pour que les gens n'aient plus à prendre leur voiture. Mais après, c'est vrai que c'est un autre débat. On part sur le débat de l'écologie, pour le coup. Qui est quand même extrêmement intéressant. Mais du coup, je pense qu'on va s'arrêter là pour que Jules puisse faire sa chronique. Pour retenir un peu ce que vous venez de dire, en gros, toi Maxime, t'es plutôt pro ville, pas non plus ville giga, mais bonne ville quand même. Sébastien, t'es plutôt ville à l'heure actuelle, ville de taille humaine, tranquille et peut-être dans le futur un peu campagne. Et toi Jules, pareil, plutôt ville pour le moment, mais en même temps t'aimes bien les activités extérieures. En même temps, vu ton travail, c'est aussi très normal. Voilà, est-ce que j'ai bien résumé un peu vos points de vue respectifs?
Oui.
Nice. Ouais. Okay. Je coupe un petit peu court au débat, parce que là on parle de vie,
le temps filoche.
De vie humaine, mais il serait temps de parler de la vie de quelqu'un d'autre, la vie de notre mère à tous, la vie de la Terre.
on dirait une pub pour la COP21.
Eh ben vas-y, je te laisse Jules la parole.
Merci Marc.
Mais de rien.
Alors effectivement, moi je vais vous parler de la Terre. Enfin, en fait, je vais pas vraiment vous parler de la Terre. Ça va être plutôt une histoire. Je vais essayer de reprendre un peu le ton que j'avais pris la dernière fois quand je parlais de l'écroulement du granier, que ça m'avait bien plu. Donc je vais essayer de vous raconter une histoire qui justement tourne autour de cette recherche de l'âge de la Terre. Parce qu'aujourd'hui, bon, on connaît assez... enfin plus ou moins tous, l'âge de la Terre. En tout cas, on en a entendu parler à un moment donné quand on était gamin. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, vous-même.
Pas en détail, c'est plusieurs dizaines de millions, c'est tout ce que je sais.
Plusieurs dizaines de millions,
il me semble.
Non, c'est des milliards, je crois. On est sur un ou deux milliards, je crois, non? Quelque chose comme ça?
1 ou 2 milliards. Alors, j'y répondrai pas tout de suite, justement. On va voir, parce que c'est toute une histoire, en fait, la manière dont certains cherchaient hein, cet âge. Et je vais particulièrement m'attarder sur une histoire, celui qui a finalement trouvé cette date, qui se passe dans les années 50. Mais avant ça, petit contexte, histoire de savoir de quelle dynamique de recherche on s'ancre. Au Moyen-Âge, on a probablement un consensus hein, qui est basé plutôt sur la Bible, bien qu'il y en ait certains qui aient des fulgurances scientifiques, on pourrait dire. On a par exemple Jean Buridan, un philosophe scolastique, et son élève l'évêque de Lisieux, qui s'appelle Nicole Oresme, qui considère que, via des phénomènes lents, imperceptibles presque, on peut avoir modifié un relief. Il parle de site géologique. Au Moyen-Âge, c'est assez...
C'est poussé, mais...
Voilà, il est assez avant-gardiste. Et il estime que ces cycles géologiques auraient pu prendre quelques dizaines de millions d'années. Et lui-même dit donc que les textes bibliques ne doivent pas être interprétés littéralement. Bon, alors, en soi, c'est des petites fulgurances épisodiques, hein. Enfin, assez sporadiques, surtout. Comme je vous le disais, le consensus est basé sur les textes bibliques. Notamment sur le calcul, le décompte des générations depuis Adam. En fait, en regardant dans la Bible, vous comptez les générations depuis Adam, ouais. Et en estimant que on vit de temps à temps d'années, vous arrivez à peu près à une date.
C'est précis, quoi.
Et l'archevêque James Usher, en 1650, va même aller plus loin dans cette démarche, parce que lui va partir du roi Nostradamus, dont on parle dans la Bible, et dont on connaît alors les dates de règne, et à partir de là, il va, avec la même technique, décompter les générations, et il fait remonter l'âge de la Terre au 23 octobre 4004 avant Jésus-Christ.
Ah,
c'est assez précis.
Très précis, ouais.
Oui, là, 4004, ouf.
Et cette date va rester en fait une référence jusqu'au 20e siècle, globalement. Même les calculs d'Isaac Newton iront à peu près dans le même sens.
Diantre.
Donc on en est là, on en est à une Terre qui daterait d'il y a environ 4000 ans avant JC. Alors au 18e, on va avoir plusieurs personnalités comme Edmond Halley, qui est un astronome contemporain de Newton, qui va estimer par exemple la quantité de sel dans les océans qui sont, si on le rapporte au débit des fleuves, ne peuvent que témoigner d'une jeunesse très ancienne, en fait, d'une accumulation ancienne. On va avoir deux, trois, voilà, petites réflexions comme ça. On va avoir Buffon qui extrapole le temps de refroidissement de sphères métalliques dans des forges aux dimensions de la Terre, et en rapportant ça du coup aux dimensions de la Terre, il lui donne un âge de 74 000 ans à peu près. Même si dans des petits carnets personnels qu'il va pas publier, il va jusqu'à donner une date de l'ordre de 10 millions d'années.
D'accord.
Et puis enfin, on va avoir au 19e énormément de questions qui vont être posées à ça, par rapport à ça, notamment via l'essor de pas mal de disciplines géologiques, et certains vont déplacer l'hypothèse de l'âge de la Terre vers le milliard d'années à peu près, notamment via la découverte de la radioactivité hein, par Henri Becquerel à la fin du 19e, parce que la compréhension des phénomènes de désintégration de certains isotopes, on s'en rentre dans les détails, ça permet simplement de comprendre que la Terre a au moins dû mettre 400 millions d'années pour se refroidir, à partir du moment où elle était chaude. Et ça permet également de comprendre les mécanismes qui fonctionnent dans le Soleil, et donc de savoir après l'âge qu'aurait pu avoir le Soleil. À partir de là, on arrive à se dire que ça doit avoir l'âge de la Terre doit être de l'ordre de plusieurs milliards d'années. On en est à peu près là, et c'est là que commence notre histoire. Alors notre histoire, elle commence, comme je vous l'avais dit, dans les années, on va dire 30-40, et c'est l'histoire de Claire Patterson. Alors, c'est le fils d'un facteur de l'Iowa, pas très scolaire, mais assez doué, mine de rien, dans les disciplines scientifiques, il est assez logique. Et il va obtenir son baccalauréat au Grinnell College, en Iowa, où il va être embauché comme géochimiste juste après son bac, dans les années 40. En fait, il va participer au projet Manhattan. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler
du projet Manhattan. La bombe.
Exactement, le projet qui va mettre en place la première bombe atomique. En fait, il va être engagé au milieu d'énormément de personnes, hein. Lui, il va simplement s'occuper d'une machine qu'on appelle le spectromètre de masse, qui permet en fait de renseigner sur la composition chimique des éléments, et c'est là qu'il va se former un peu sur le tas. Après la Seconde Guerre mondiale, il va débuter un doctorat à l'Université de Chicago, sous la direction d'Harrison Brown. Et cet homme va lui confier un travail d'apparence assez banal. Vous imaginez, Claire Patterson arrive dans son bureau, et puis là, Harrison Brown lui dit, bon, écoute, paraît que tu te démerdes plutôt pas mal au spectromètre de masse. Alors, ce qu'on va faire, voilà, ce que je peux te proposer, c'est un petit boulot, c'est pas grand chose. Ça devrait être assez facile et ça te propulsera sûrement sur les gros titres des journaux. En fait, voilà, là, j'ai des cristaux de zircon, c'est des petits cristaux de la taille d'une tête d'épingle qui sont extrêmement résistants. Ça, c'est des cristaux qui ne peuvent pas être altérés pendant des millions d'années. Et on connaît l'âge de ces grains parce que la roche dans laquelle ils étaient a pu être datée. Et ces petits grains, en fait, c'est des grains qu'on peut retrouver notamment dans les météores. ils sont pleins d'uranium. Or, l'uranium, naturellement, on sait qu'il se décompose en plomb. Le problème, c'est qu'on ne sait pas selon quelle courbe, si vous voulez. On sait qu'il se décompose de manière progressive, en plomb, mais on ne sait pas sous quelle courbe. Et donc là, puisqu'on a déjà la date de la roche dans laquelle on a ces cristaux, et qu'on peut donc voir les proportions d'uranium et de plomb qu'il y a dans ces cristaux, on pourrait donc réussir à trouver cette formule. Et à partir du moment où on aura trouvé cette formule, ça veut dire qu'on pourra dater, via cette technique, des météores qui ont à peu près l'âge de la Terre. Ça, on peut le savoir, géologiquement parlant. Et donc, si tu arrives à trouver cette formule, ça voudrait dire que tu serais le premier à savoir l'âge de la Terre. On a un roulement de tambour, Clive Patterson fait « Ah ouais, d'accord ». Alors, Harrison Brown dit « Bon, voilà, ça ne devrait pas être un boulot très difficile, il suffit simplement de regarder l'uranium et le plomb que tu as dans tes cristaux et de faire la corrélation. Ça ne devrait pas être très compliqué pour un géochimiste comme toi ». Bon, très bien, sur ce, Patterson fait « Ok », il part et il va commencer à se mettre au boulot. Alors, Patterson va être aidé d'un autre étudiant. Lui, Patterson, va mesurer le plomb dans les échantillons, et l'autre étudiant va chercher à mesurer l'uranium. Alors, les deux sont dans le laboratoire, ils font un peu leur petite tambouille, et puis donc, l'autre étudiant, Tilton, va obtenir tout le temps les mêmes résultats. Pour tous les cristaux qu'il est en train de dater, à chaque fois, il a la même proportion d'uranium. Mais Patterson, lui, n'a jamais les mêmes proportions de plomb. À chaque fois, les quantités sont différentes, même sur les mêmes échantillons. Ça n'a aucun sens. Alors au départ, il va se dire, mais c'est peut-être une contamination du laboratoire au plomb, peut-être qu'il y a quelque chose qui fausserait les données. Alors Patterson va tenter de décontaminer le laboratoire par tous les moyens, pendant plus de 2 ans, mais rien n'y fait. Il fait même bouillir tous ses outils, et essaie de stériliser entièrement le laboratoire, impossible. Rien n'arrive à rendre correct ses résultats. Et lorsque Harrison Brown, donc son directeur de thèse, change de laboratoire, Patterson va en profiter et va faire créer une salle spéciale dans ce nouveau laboratoire pour éviter les pollutions extérieures. C'est la première salle blanche, donc vide de toute contamination extérieure. Elle va être créée pour ça, pour répondre à ce problème-là. Et en fait, ça marche. Grâce à cette salle blanche, il va découvrir la fameuse formule qui permet de savoir comment est-ce que l'uranium va se décomposer en plomb et pendant combien de temps. Alors, vous imaginez, il vient de sortir le papier, il a griffonné voilà, sa formule qu'il vient d'avoir. On est en 1953, et en pleine nuit, il va prendre sa voiture et il va aller jusqu'au plus grand spectromètre de masse du monde dans l'Illinois. Alors, le vigile va être étonné, il monte son badge, il fait « Ok, il fait un peu tard », enfin, il rentre, il place son échantillon dans la machine, et il attend. Là, l'échantillon va être vaporisé, hein, c'est des aimants ultra puissants qui vont séparer les éléments de l'échantillon et les quantifier. Les courbes s'impriment, vous imaginez les machines de 53, hein, avec... La petite feuille à carreaux qui s'imprime doucement, il arrache la feuille, sort sa table de calcul, et sous les étoiles de l'Illinois, aligne les chiffres. Et là, surprise, la Terre a 4,5 milliards d'années. Il est à ce moment-là, à ce moment précis, la seule personne sur Terre qui connaît l'âge de la Terre. Et la première personne à qui il va aller annoncer la nouvelle, et c'est sa mère. Il va prendre la voiture et le matin même va taper chez sa mère pour lui expliquer ce qu'il faisait depuis toutes ces années et lui dire « Voilà, la Terre a 4,5 milliards d'années ». À ce moment-là, elle sera que la deuxième personne sur Terre à le savoir, de toute l'histoire des vivants. Voilà, enfin, on sait l'âge de la Terre. Alors ça sort, ça fait des articles, etc., etc. Et c'est la fin, plus ou moins, puisque c'est une date qui a fait consensus jusqu'en 2012, maintenant on a juste resserré un peu la marge d'erreur. Globalement, il avait totalement raison. Donc c'est la fin de cette fameuse conquête de l'âge de la Terre. Mais pourtant, c'est pas la fin de notre histoire. Parce qu'en effet, Patterson est devenu un expert reconnu sur le plomb, expert mondial. Ça fait des années qu'il bosse sur le plomb, en fait. Ça lui a permis d'avoir l'âge de la Terre, mais il est davantage expert sur le plomb lui-même que géologue. Et une question de Tarod, d'où venait la perturbation qui lui a posé problème toutes ces années? En effet, d'où venait cette contamination contre laquelle il a lutté, en fait, pendant des années? Alors pour ça, pour répondre à son problème, il va partir mesurer les concentrations de plomb dans les eaux profondes. En pleine mer, ils sortent, ils arrivent en bateau en pleine mer, ils sortent les échantillons, ils mettent donc ces espèces de petites capsules qu'on met sous l'eau, on les ramène avec un bout. Et là, surprise, il observe de très très faibles concentrations de plomb en profondeur. Pourtant, il y a de très fortes concentrations de plomb dans les eaux de surface. Et le problème, c'est qu'en fait, les eaux de surface se mélangent avec les eaux des profondeurs, sur un ordre de quelques siècles. Et donc, si on ne trouve pas de plomb en profondeur, mais qu'on en trouve à la surface, c'est que c'est pas quelque chose de normal, c'est que c'est quelque chose de récent. La contamination au plomb est assez récente pour que les eaux de profondeur n'aient pas pu être contaminées par le plomb, n'aient pas pu être rebrassées avec les eaux de surface. Et là, ça commence à poser souci. Parce qu'il va petit à petit se rendre compte que cette concentration s'est révélée et liée énormément aux environnements industriels de l'époque. Et là, comme toutes belles histoires, on fait un retour en arrière. Petit flashback au début des années 1900. On va suivre un autre personnage qui s'appelle Thomas Midgley Jr., un petit bonhomme qui va faire ses études en mécanique à l'université de Cornell, sacrée université à New York. C'est un gars un peu inventeur, un peu dont le père d'ailleurs était un peu inventeur lui-même, et qui a ni plus ni moins que révolutionner le monde de l'industrie moderne. Il veut être un grand inventeur, il veut absolument tout changer. Alors son père travaille dans l'automobile, donc après ses études, Thomas va chercher à améliorer la conception de pneus dans l'université de son père. Mais ça va finir par un échec. Il va créer une boîte qui va péricliter, il l'abandonne. Il va par la suite être embroché dans l'équipe de recherche de la grande entreprise Delco Electronics, où il va enchaîner des projets, que ce soit sur des lampes, des lumières, des moteurs. Aucun de ces projets ne va aboutir. Et il est absolument maudit sur tous les projets qu'il va faire. Que ce soit parce que finalement on lui coupe les budgets, ou que ce soit parce que la guerre commence. La seconde guerre commence, et puis finalement on va plus avoir besoin de lui, ou etc. etc. Et puis enfin, après la guerre, il va être embauché par General Motors, une entreprise dont vous avez sûrement déjà entendu parler. Et en fait, General Motors va le voir et va lui dire « Écoute, on a un super moteur qu'on vient de mettre en place, qui est pas cher, qui pourrait être produit en grande quantité et qui pourrait alimenter énormément de voitures. Mais le problème qu'on a, c'est qu'il supporte pas l'essence classique. Il va falloir qu'on trouve un nouveau carburant. Et donc, ta mission, c'est de trouver un nouveau carburant exprès pour ce moteur. » Et là, Midgley va mettre absolument tout ce qu'il a. Et il va réussir à trouver un truc. Le problème, c'est que ces formules, en fait, ce qu'il a réussi à trouver, hein, le tétraéthylplomb, contient beaucoup de plomb. Beaucoup plus que ce qui est censé être... ça pourrait abîmer le moteur. Et puis, le plomb, vous le savez, est aussi une substance toxique pour l'humain. Enfin, pour tous les êtres vivants, en fait. Mais, c'est pas cher. Et ça marche. Et lui est absolument très fier de sa découverte. Et donc ce tétraéthyle va prendre le nom de l'essence super, et c'est lui qui va breveter cette essence, alors même qu'il travaillait pour General Motors, il va breveter pour lui cette essence et signer un contrat avec la General Motors. Et c'est parti, l'essence super commence à débouler partout. Alors, à un moment donné, on commence à se rendre compte quand même que, par exemple, les travailleurs, les ouvriers qui bossent là-dedans, qui bossent aux usines automobiles, commencent à être atteints de démence. Il y en a qui se défenestrent, il y en a qui meurent dans circonstances étranges, il y en a qui deviennent violents.
C'est le saturnisme.
Ce qu'on appelle le saturnisme, c'est l'intoxication.
C'est comme les Romains.
Oui, exactement, comme les Romains. Comme les Romains qui avaient donc
canalisation en plomb.
Exactement, c'est là d'où vient le terme de plomberie, hein, c'est canalisation en plomb, en fait. C'était pas forcément très bonne pour la santé. Et vous en doutez, quand on palpe énormément d'argent, qu'il y ait 2-3 prolétaires qui commencent à crever en hurlant, c'est pas forcément ce qui va freiner les gens.
J'ai rien entendu après argent.
Et voilà. Alors, mine de rien, ça refroidit les investisseurs sur le moment, et puis même le public sur le moment, on entend parler. Mais après une énorme campagne publicitaire et un lobbying de fou, au final, c'est de la faute des ouvriers. Et puis, de toute façon, les gens dans la vie de tous les jours ne pourront... Enfin voilà, ça concerne les ouvriers qui sont justement en prise avec la substance en elle-même. Enfin bon, les gens qui sont dans la rue, il n'y a aucun souci. Alors même que finalement, ce plomb qui est dans l'essence va forcément finir dans les gaz d'échappement. Et quand c'est 2 voitures, ça va, mais quand il commence à y en avoir des milliers et des millions, ouais, vous imaginez vite le problème. Et en fait, ces particules de plomb vont s'entasser dans l'atmosphère, intoxiquer des millions de personnes, et accentuer l'amoindrissement de la couche d'ozone. En fait, ça va être un des gaz qui vont faire qu'on va commencer à avoir un trou dans la couche d'ozone, un problème que nous, on découvrira plus tard.
D'accord. C'est le début, en fait.
Exactement. Alors, cette personne, ce fameux Thomas Midgley, a aussi une autre super invention, petite parenthèse dans l'histoire. Il a également inventé des réfrigérateurs, après cela. Des réfrigérateurs qui fonctionnaient très bien également, mais qui utilisaient un gaz à effet de serre. Mais bon, vu que ça s'en allait très bien, ça s'est développé partout, et vous en doutez, ça a aussi posé problème. Et donc, par une personne, vous avez eu presque 90% des gaz à effet de serre qui vont commencer à créer un trou dans la couche d'ozone qu'on commençait à émerger de manière massive.
Le pire, c'est que lui voulait peut-être juste améliorer la vie des gens.
C'est ça. Et au final, c'est celui qui a eu le plus grande incidence sur l'atmosphère de tous les êtres vivants jamais connus dans l'histoire.
Pourquoi l'enfer est pavé de bonnes intentions ?
Exactement. Alors revenons à notre Claire Patterson. Vous rappelez, donc Claire Patterson vient de découvrir l'âge de la Terre, mais vient également de découvrir l'une des plus grandes contaminations à l'échelle planétaire de l'histoire. Et vous vous en doutez, ça va pas forcément faire plaisir à certains. Et les industries pétrolières vont alors exercer une pression incroyable sur Patterson et vont faire couper ses financements. une énorme campagne de lobbying visant à décrédibiliser ses travaux se met en place. C'est une des premières fois que l'autorité de la science va d'ailleurs permettre de masquer des impératifs industriels. Ainsi, un homme portant le nom de Robert Keogh, un scientifique, va être justement acheté par ses lobbies, en fait, et va avoir pour mission de semer un doute scientifique. Alors les arguments, on les connaît plus ou moins pour d'autres choses aujourd'hui, mais c'est par exemple « le plomb est un élément naturel, au final ». Et puis, bon, il y a des risques pour les personnes en contact, mais l'autorégulation de l'industrie va y remédier. Et puis dans tous les cas, il n'y a rien qui prouve que les autres ne soient en danger, que les autres, les usagers dans la rue. Et Patterson va travailler des années, malgré les pressions, va aller jusqu'en Antarctique pour prélever des carottes de glace, histoire de pouvoir analyser les bulles d'air emprisonnées à l'intérieur d'il y a plusieurs siècles pour montrer que c'est quelque chose de très récent, au final. Voilà, encore une fois, il va manger énormément de pression, il va même être exclu des groupes de recherche atmosphérique et autres au niveau national. Mais finalement, en 1973, son combat aboutit. La United States Environmental Protection Agency décide de réduire de 60 à 65% le plomb en tant qu'additif, puis l'interdire totalement dès 1986. Et grâce à ça, de 1980 à 1990, des études montrent que la concentration en plomb dans le sang des Américains a chuté de près de 80%. Alors aujourd'hui, il y a toujours des traces de cette contamination en plomb dans l'atmosphère, même si, vous voyez, ça a très très vite chuté. Ça a été l'histoire d'une des plus grandes contaminations à l'échelle planétaire. Alors vous voyez, pour avoir la petite morale de l'histoire, de cette petite fable scientifique. La science, elle permet de comprendre le monde dans lequel nous nous trouvons, de nous interroger quant à notre place, à la place de ce qui nous entoure. C'est une démarche de raisonnement, mais comme tout outil, il dépend de la personne qui l'utilise et de la raison pour laquelle elle est utilisée. Ici, on a eu deux chercheurs avec des objectifs différents. L'un, un inventeur génial, qui a néanmoins eu plus d'impact sur l'atmosphère qu'aucun être vivant quelconque dans l'histoire de la Terre, comme je vous le disais.
Ouais.
Et l'autre, en cherchant à répondre à des questions millénaires, encore largement au-delà, a permis de mettre en évidence un empoisonnement de masse et à mettre à bas un lobby mondialement puissant.
C'est ouf.
Alors maintenant, lorsque vous prenez votre essence sans plomb à la pompe,
je comprends pourquoi,
pensez à Claire Patterson.
Je me suis souvent posé la question du pourquoi. Maintenant...
Pensez à l'histoire de la science, pensez à l'âge de la Terre, et pensez à l'immensité de l'espace et du temps.
Bravo. Merci Jules pour cette petite histoire passionnante.
Ah ouais, merci beaucoup.
De rien, j'espère que ça vous a plu.
Ah oui, on s'est laissé transporter du début à la fin.
Ça fait ça aujourd'hui en plus, c'est ça du coup.
Ouais. Et je me dis que si ça plaît ou ce truc comme ça, je pourrais faire d'autres chroniques sur des histoires de science comme ça, parce qu'il y en a tellement des gens incroyables qu'on fait des trucs incroyables et dont on se rend pas compte aujourd'hui alors qu'on utilise leurs trucs tous les jours.
Mais franchement, c'est assez cool. Ça peut te faire une thématique. Moi, en tout cas, j'ai bien kiffé. Mmh. Franchement. C'est apaisant en fin d'émission d'avoir quelque chose de très smooth comme ça.
Une petite histoire. Ouais, j'étais à deux doigts de m'endormir.
T'es fait bercer par la.
Ah, c'est un peu ça. Oui.
Et comme quoi, vous voyez que le lobbying scientifique, t'as pas lié.
Eh oui,
ce qui est marrant aussi, c'est que ça montre aussi que si jamais on voit un problème suffisamment tôt, on peut y faire quelque chose. Quoi.
Oui, ça dépend
du problème.
Imaginez, le gars, il serait jamais posé la question. En fait, on serait tous avec un taux de plomb dans le sang.
Oui, très clairement. Il a même montré, Clark Patterson a même étudié des squelettes. À un moment donné, il s'est entouré d'anthropologues et ils ont étudié des squelettes d'Américains. Ils ont montré que même dans les eaux, il y avait une forte concentration de plomb, en fait. Même dans l'alimentaire, en fait, c'est normal, à partir du moment où tout gaz, autour de toi est contaminé au plomb.
Je me demande ce qu'on découvrira dans 30 ans sur ce qu'on consomme actuellement.
C'est ça, surtout. C'est sûr qu'on va avoir des petites surprises, je pense, effectivement.
Je pense qu'on en a déjà plein, que beaucoup de gens sont au courant, mais juste pas nous.
Écoutez, les gars, je pense qu'il va être temps de clôturer. Ça fait 1h45 qu'on
est. Oui, parce que j'ai faim.
Et ça m'a fait très plaisir de faire cette émission en votre compagnie. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu pour certains d'entre vous.
Oui.
Et puis, Jules, c'est toujours un plaisir de t'avoir aussi, deux fois de suite, comme on l'a dit en début d'émission. C'est vraiment exceptionnel pour le coup.
Ouais. Donc, merci à toi de m'inviter.
De rien. Il n'y a pas de souci. Écoutez, merci donc à vous les gars pour votre intervention. Merci également à nos chers auditeurs du soir comme du matin.
Merci.
Qui, je l'espère, sont toujours présents au rendez-vous. Voilà, écoutez, si cette émission vous a plu, vous savez quoi faire. Vous savez que pour nous aider, il suffit simplement de cliquer sur partager et j'aime, le pouce bleu, la cloche, tout ça, bref. Écoutez, merci à vous tous et passez une excellente journée, soirée, matinée, ce que vous voulez.
Bye bye.
Et voilà. Vous avez pas dit au revoir.
J'ai pas entendu la. J'ai en fait, entendu ça, finir, ça a coupé. En fait. Quoi ça a coupé, je crois, j'ai l'impression. Du coup, j'attendais.
Oui, en fait,
la
c'est ça. Ça fait oui, parce que nous. Ça... Oui, mais du coup, tu dis quoi? Du coup, on attendait effectivement la
fin. Ah, mais ça coupe. Ça a coupé chez vous. Ah merde, pardon.
C'est pour ça que du coup, j'ai dit bye bye un peu en retard.
Ah bon, c'est pas très grave.
Il a pas dit bonjour.
Ça doit être très chelou du coup. Ouais. D'accord. Bon bah écoutez les gars, ce que je propose c'est qu'on mette fin à notre enregistrement.
Allez, mettons donc fin à notre enregistrement.
Allez.